Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les voies de Dieu sont vraiment impénétrables, je crois, plus que jamais avec l'évangile d'aujourd'hui, l'histoire qui nous est narrée par l'évangile d'aujourd'hui. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Je crois que plus encore, tous les canaux de l'intelligence peuvent mener à Jésus-Christ. C'est ce qui se passe avec ces chers mages-là, dont on nous dit finalement assez peu de choses, ni qu'ils sont rois, ni qu'ils sont trois, ni exactement d'où ils viennent. Alors nous avons, grâce à la tradition, pallié tout cela, et sans doute sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais aussi peut-être aussi un peu de la fantaisie humaine, voulu représenter ces trois mages comme très souvent un jeune, un homme d'âge fait et un homme mûr. On a voulu représenter un jaune, un noir, un blanc, en se disant que, bien avant l'invention de Benetton, pardon, de faire de la publicité en chair, eh bien, ces trois couleurs représentaient un petit peu l'universalité de la race humaine, et que partant c'était convenable parce que c'était l'humanité tout entière qui venait se prosterner aux pieds de l'enfant Jésus. Voilà, peu importe ces représentations qui sont très belles, qui sont légitimes, ce qui évidemment nous intéresse chez ces mages, c'est la démarche de leur intelligence. Plus que leur parure, plus que leur couronne, plus que l'étendue de leur savoir, parce qu'ils étaient astrologues, ça on nous le dit, là ils étaient mages, plus que la figure qu'ils avaient réellement, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est leur intelligence. Cette intelligence qui a accepté de s'incliner devant le mystère. Et je dirais à deux chefs, ou pour à propos de deux sujets, d'abord à propos de ce qui constituait pourtant ce dont ils étaient spécialistes, la science des astres, enfin la science, ou la parascience, parce qu'il y avait un mélange de science exacte et puis de paranormal, disons, ou de préternaturel. Et ils déifiaient, ils divinisaient les astres et considéraient que tout était sur Terre déterminé par le mouvement des astres. Tout cela est fort vrai quand on y pense. Tout, non, c'est excessif. Mais que les choses sur Terre soient déterminées largement par les astres, je vous laisse par exemple penser au mouvement des marées, à l'influence qu'a la Lune, c'est vrai. Certains d'entre vous, peut-être sensibles à cela, sont insomniaques, les jours de pleine Lune. Voilà, il est vrai que... Alors je m'arrête là parce que je n'en connais pas beaucoup plus et parce que ça suffit, je crois, à illustrer le fait qu'effectivement, les astres ont, c'est vrai, une influence réciproque, et notamment sur ce qui se passe sur la surface de la Terre. De là à en faire des divinités, de là à en faire, ils ont la bonne étoile qui détermine absolument ce qui se passe sur Terre, évidemment, il y a un pas que la vraie religion ne saurait franchir, et que ces hommes franchissaient allègrement. Or, ce qui se passe à Bethléem, c'est un retournement de cette fausse conviction. Ce n'est, quand on y pense bien, ce n'est plus cet astre-là, la bonne étoile qui les a guidés jusqu'à Bethléem, qui détermine ce qui se passe sur Terre, c'est au contraire ce qui se passe sur Terre, l'incarnation de Dieu, qui détermine l'astre, et qui appelle cet astre vers Bethléem pour attirer l'attention de ses mages. Premier retournement donc auquel les mages ont été dociles. Vous voyez, ils sont venus petit à petit de cette fausse science à une vraie, un usage tout à fait légitime de la science qu'ils avaient des astres. Cette science a été remise à sa place. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'ils devaient sans doute, ces rois, puisque la tradition nous dit qu'ils étaient rois, se faire du roi des Juifs, une conception à la hauteur de ce qu'était la royauté chez eux, sans aucun doute, à Babylone, où on ne sait pas trop d'où ils viennent, mais traditionnellement on les fait venir de Babylone, où l'empereur était tout, le roi de Babylone était le dieu sur terre, avait droit de vie et de mort, ça va sans dire, et avait des mœurs assez étranges, en même temps que très raffinées, bref. Je ne laisse pas votre imagination travailler plus longtemps, ce serait dangereux. Mais ces rois, donc, mages, avaient sans aucun doute une conception du roi qui était extrêmement puissante, qui était... Or, ils acceptent, petit à petit, en progressant d'abord vers Jérusalem, qu'ils ne connaissaient sans doute pas, et dans laquelle, peut-être, on leur avait dit, parce que n'oubliez pas que les Juifs ont été déportés en Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ, et que leur fortune, qui était réelle, a été pillée par les Babyloniens. Sans aucun doute, donc, les Babyloniens venus en Terre Sainte pour voler les biens et les rapporter dans leur pays, racontaient-ils toutes sortes de légendes orientales sur le temple de Jérusalem, sur les richesses qui y étaient enfermées, sur ce peuple étrange, pour faire valoir leurs propres exploits, bien sûr. Imaginez donc que ces mages venus précisément de Babylone devaient avoir de Jérusalem une idée très haute et du roi qui y siégeait, évidemment, une idée complètement enflée. Ils arrivent à Jérusalem, ils tombent sur un roi clé, Hérode, qui honnêtement ne devait pas vraiment être à la hauteur des espérances des mages. Plus encore, ils acceptent d'aller dans l'endroit que leur indique non plus le roi Hérode, mais les élites juives, à Bethléem, où là encore, leur imagination trottant, ils reportent toutes leurs espérances. Et ils arrivent, parce que l'étoile les y guide, très certainement, dans cette grotte de Bethléem, où gît dans une bauge, il faut être clair, le Fils de Dieu, qu'on dit roi d'Israël. Et voilà que ces hommes ont accepté de se prosterner, eux qui devaient être habillés d'habits chamarrés, on imagine, voilà, ces hommes portant beau, et qui acceptent de se prosterner, tout couronnés qu'ils étaient, et tout vêtus d'étoffes rares qu'ils étaient, dans cette bauge, dans le crottin, au pied de l'enfant Jésus, pour offrir l'or, l'encens et la myrrhe qu'ils avaient initialement prévu d'offrir, sans doute un très haut personnage, voilà, comme leur imagination leur laissait penser. Vous voyez que ces mages montrent une docilité, et dans l'usage de leur science, où ils sont experts, leur science bouddhénique était en même temps une sorte de religion, et quant à la conception qu'ils se faisaient de leur roi. C'est l'intelligence humaine qui, à travers cette démarche, accepte de ne pas en rester à ces simples conceptions étriquées, mais accepte de s'adapter, accepte de progresser. Vous savez peut-être, la tradition voit dans le fait qu'ils aient d'abord suivi un astre et ensuite les prophéties de l'Ancienne Alliance pour aller s'incliner devant l'enfant Jésus, ils incarnent, ces rois mages, leur démarche incarne la marche globale de l'humanité, qui n'avait à sa disposition avant la révélation que ce qu'on appelle, ce que saint Paul appelle la révélation naturelle, c'est-à-dire ce monde qui autour de nous chante la gloire de Dieu, comme dit le psalmiste, cieux et terre chantent la gloire de Dieu, c'est-à-dire portant le reflet de Dieu, devant bien être causé par un premier moteur, nous amène vers ce premier moteur, sans nous donner encore de Dieu qu'une idée très imprécise. C'est cette étoile qui incarne, si j'ose dire, cette manière de faire. Ils ont d'abord été dociles donc à la création, à l'étoile qui renvoie au Créateur. Et puis ensuite, ils ont été introduits à la révélation de l'Ancien Testament par les scribes et les prêtres de Jérusalem. Vous voyez qu'ils sont là l'incarnation de l'humanité qui progresse dans la connaissance de Dieu. Parce que cette révélation surnaturelle de l'Ancien Testament est plus claire. C'est à Bethléem que naîtra le Messie. On précise un peu les traits que les astres étaient incapables de révéler par eux-mêmes. Et lorsqu'ils arrivent à Jésus, c'est la révélation néo-testamentaire qu'il aurait faite, et qu'il aurait faite de manière très incarnée. Pas besoin de parler, pas besoin de dessin. Ils arrivent, ils voient l'enfant Jésus, la Vierge Marie, peut-être les anges, on ne nous a pas dit que les anges n'étaient plus là du temps de leur visite, et ils acceptent donc d'aboutir à la plénitude de la révélation en Jésus-Christ. Vous voyez que nous pouvons tirer toutes sortes d'enseignements de cette très belle scène qui, pour très concrète qu'elle est, haute en couleurs, parce que voilà, depuis qu'on est enfant, on aime à considérer ces mages dans la crèche, c'est le bouquet final, si on veut, de cette scène de la crèche, mais qu'en réalité, l'enseignement très profond est plutôt abstrait. Et que ces mages incarnent plus qu'eux-mêmes, bien sûr. Je voudrais simplement finir en vous parlant de ce qui marque ces mages. Ils nous apprennent à adorer. Vous savez que les mages se sont conduits devant l'enfant Jésus en mettant la tête contre le sol, suivant les mœurs babyloniennes. C'est ce qu'on faisait devant l'empereur. C'est ce qu'on faisait devant le roi. La métanie. On est à terre pour montrer qu'on est rien. Ils ont repris ces mœurs, ce n'est pas du tout une manière de prier juive, celle-ci. Et ils ont appliqué devant l'enfant Jésus cette manière, d'abord un peu dévoyée, un peu trop humaine, d'adorer. Et le Seigneur Jésus, ni la Vierge Marie, ni Saint Joseph, ne leur ont fait le reproche. Autrement dit, il y a chez l'être humain, et c'est ce qui a frappé le père de Foucault lorsqu'il était à Tamanrasset ou lorsqu'il était à Beni Abbès, il a été très frappé de voir les musulmans, face contre terre, justement, adorer Dieu. Et tout en voyant les limites de cette fausse religion, il y a admiré une seule vertu, l'adoration, la capacité de reconnaître que l'on n'est rien devant celui qui est tout. Ça, mes frères, c'est quelque chose qui doit nous réconforter, je veux dire, l'homme a en lui, si rationaliste qu'il devienne, ou cette capacité d'adorer. Encore faut-il savoir susciter cette capacité d'adorer. Ce que je veux dire, c'est que avant d'enseigner toutes sortes de vérités, de faire venir au catéchisme, si j'ose dire, ou à l'apologétique, à des cours d'apologétique, de défense de la foi chrétienne, nos contemporains, la première chose qu'il faut leur apprendre, c'est à adorer. C'est à courber les chines, à reconnaître qu'on n'est rien devant Dieu, qu'on est parfaitement dépendant, et adorer jusque dans son corps. N'ayez donc pas peur, c'est ce qui s'est passé pour ces grands savants, qui devaient être également des grands personnages de l'État, je vous l'ai dit, ils se sont prosternés, leur long sur cette terre, faites, n'ayez pas peur de proposer à vos contemporains de venir adorer avec vous, dans une église, ou dans, parfois le respect humain, ou voilà, je ne sais quelle gêne, fait que nous n'osons pas proposer à nos contemporains de nous accompagner pour 10 minutes d'adoration eucharistique, ou pour aller assister à la Sainte Messe. Je pense qu'il ne faut pas avoir de gêne, et que le spectacle de ces mages, qui bien commence par une adoration qui n'est pas parfaite, qui est encore, je vous l'ai dit, trop humaine, qui répond aux habitudes qu'ils ont prises ailleurs que dans le giron de la vraie religion, peu importe, cela utilise une profonde inclination de l'être humain. N'ayez pas peur, vos contemporains, je vous l'ai dit, si critiques qu'ils soient à l'égard de l'Église, si ont cette capacité en eux d'adorer, parce que Dieu leur a mise en eux. Et ils seront frappés par votre propre adoration. N'ayez pas peur de vous mettre à genoux devant eux. Pas devant eux, mais devant Dieu, devant eux. Et de leur proposer la même chose. On commence par une démarche de bonne foi intellectuelle, comme les rois mages, et ensuite, tout comme les rois mages, on en vient à une démarche extérieure, matérielle, corporelle, et enfin, on en vient à la foi. Parce que Dieu couronne tout cela du don de la vertu théologale de foi. Voilà, mes frères, ce que je voulais vous dire. Je termine la conclusion, comme d'habitude, la conclusion a plusieurs parties, comme vous le savez, en parlant de cette petite phrase qui clôt le passage de l'évangile d'aujourd'hui, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a suscité à ces mages une conception juste d'Hérode. Cet homme est mauvais et il veut tuer l'enfant Jésus. Alors, ils comprennent qu'il faut qu'il rentre par un autre chemin, plutôt que d'aller témoigner auprès du roi Hérode du vrai Dieu qu'ils ont enfin rencontré. Lorsque, mes frères, nous témoignons, lorsque nous avons à rendre ce témoignage auprès des gens qui nous entourent, il arrive parfois que les gens soient si mal disposés, de si mauvaise foi, c'est le cas d'Hérode. Lorsqu'Hérode arrête Jésus, Jésus ne répond même pas. Il répond à Pilate, il répond au prêtre, il y a une personne à qui il ne parle pas, c'est Hérode. Il ne vaut même pas la peine. Tellement son cœur est obstrué, tellement son cœur est obscurci. Et bien de la même manière, nous, lorsque nous avons à rendre un témoignage de notre religion, et que la personne en face de nous est trop endurcie, laissons tomber. Rentrons par un autre chemin. Nous avons contemplé, nous avons adoré. Si la personne est bien disposée, emmenons-la, apprenons-lui à adorer, et corporellement, ayons cette simplicité. Si la personne est mal disposée, secouons la poussière de nos sandales, ça leur servira de témoignage, nous dit Jésus. Pas de perles au pourceau, nous dit Jésus également. N'essayons pas, voilà, à grand renfort de raisonnement, de plier la personne, ça ne sert à rien. Et Jésus lui-même n'y parviendrait pas. Et nous rentrons par un autre chemin. C'est également un enseignement que nous pouvons tirer de cet évangile magnifique d'aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie des mages, j'espère que vous pourrez encore jouir de votre crèche quelques jours, pour pouvoir méditer sur ces trois figures magnifiques qui nous enseignent tant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.